Mission Métal, le podcast de la mission locale avec la Rodia et Sparse Magazine.
Je trouve qu'à Besançon, il y a quand même une bonne scène métal. On a quand même la possibilité de voir beaucoup de concerts, etc. Le public, en général, il est toujours très bienveillant. C'est une bonne communauté, je trouve.
Sur Besançon, moi, je me rappelle, j'ai 46 ans aujourd'hui. Quand j'avais 16 ans, il y avait déjà des groupes sympas, notamment Toadel, que j'ai pas mal suivi. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu, sur Besançon, une scène métal assez intéressante. Toujours eu une belle scène métal. À Besançon notamment, et en France, on a quand même la chance d'avoir le plus beau festival métal du monde à Clisson en France. Donc le métal a toujours eu une belle place en France.
Mission métal.
On va parler du growl. Une spécificité du métal, le growl, c'est ça. Alors le growl dans le métal, c'est arrivé progressivement. Ça a débuté avec le grunt, qu'on retrouve dans le blues à la base, comme dans la chanson « I put a spell on you » de l'américain Screamin' Jay Hopkins en 56, ou pour comme autre exemple usé de manière humoristique dans la chanson « Boris the Spider » du groupe anglais The Who. La différence entre le growl et le grunt, c'est qu'on peut chanter des mélodies avec le growl, mais pas avec le grunt. Le grunt, c'est des bruits gutturaux courts. Avec le temps, le blues donnera le rock, qui lui donnera le hard rock et le metal en tout genre. Alors, où utilise-t-on le growl? Le growl se retrouve dans différents genres de metal. Le death, le black, où c'est fréquemment utilisé vu que c'est principalement chanté en growl et en scream. Et dans d'autres sous-genres, greencore, death doom, metal goth, deathcore, etc. Maintenant, on va parler un peu plus des techniques vocales pour le growl avec Émilie Domergue.
Je suis Émilie Domergue, donc je suis coach vocale. Donc pour le milieu artistique, je me suis spécialisée dans la voix saturée puisque j'ai une culture plutôt rock-metal.
Émilie, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça fonctionne le growl?
Mais en gros, le growl, c'est tout ce qui va être guttural, donc des sonorités plutôt graves, donc en dessous de la glotte, on va dire. Donc c'est un endroit où on va faire résonner le son. Mais en général, la voix saturée, c'est que on envoie un trop-plein de pression d'air sur les cordes vocales. Et pour qu'elle puisse résister à cette pression d'air, le corps, c'est génial, hein, il met en place un mécanisme, d'aide pour les cordes vocales. C'est les fausses cordes vocales qui vont se mettre en vibration aussi. Donc, on va avoir deux fréquences sonores. On va avoir la fréquence des cordes vocales et en dessous, la fréquence des fausses cordes vocales, aussi appelées bandes ventriculaires, qui vibrent 2 à 3 fois moins vite que les vraies cordes vocales et qui nous donnent du coup un effet sur le son.
Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre le growl et le grunt?
Alors, je ne dirais pas de technique, puisque la technique, la base, c'est la respiration. C'est une cohérence, une coordination entre ce qui se passe en dessous en fait, du larynx, en dessous de l'endroit où il y a les cordes vocales, donc tout ce qui est niveau respiratoire, pulmonaire, diaphragme, etc., et au-dessus de ce qu'il y a de larynx, donc du coup tout ce qui est cavité buccale, résonateur, on va devoir équilibrer des choses. Et donc c'est surtout une histoire d'équilibre entre la pression et ce qu'on appelle la contre-pression, qui est donc cette zone-là des résonateurs, qu'on va devoir équilibrer. Donc ça c'est la base de la respiration, on va devoir jauger et doser cette respiration-là. Et ensuite, les différences, c'est plutôt en termes de placement. Mm-hmm. Où est-ce que je vais placer le son en fonction du son que je veux faire? Dans quelle zone de résonance, en fait, dans quelle zone je vais venir appuyer, maintenir mon son pour qu'il ait une spécificité au niveau du son.
Est-ce qu'on peut dire que les chants gutturaux, comme les chants mongols ou inuits, etc., sont des inspirations pour les techniques de growl?
Je ne dirais pas que c'est une inspiration, parce qu'en fait, je ne me suis pas trop attardée sur ce type de chant, même si... Enfin, j'ai vu des choses chez les Inuits. Ce n'est pas du tout pareil, parce qu'en fait, les Inuits, c'est un jeu qui correspond au « Je te tiens par la barbichette ». Et le but, c'est de ne pas rigoler. Alors qu'en fait, pour tout ce qui est métal, tout ça, on exprime une colère. Donc en fait, ce n'est pas forcément des choses qui sont similaires. Après, en termes de placement, oui, on va pouvoir retrouver des choses, bien évidemment. Mais la base, le chant mongol, il y a beaucoup de travail aussi avec la langue pour avoir des effets d'harmonique qui viennent se développer. Sur tout ce qui est métal, rock, on est sur, quand même sur une... C'est autre chose dans le sens où on est sur une implication physique, l'expression d'une émotion trop forte, hein, puisque c'est ça, la saturation, c'est quoi ? C'est quand on est dans le trop, quand on est vraiment au-delà de notre seuil de tolérance. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Il faut apprendre, je pense, des deux, dans le sens où souvent, dans le métal, en tout cas pour tout ce qui est stylistique musicale, on associe ce type de son à quelque chose qui est trop, d'accord, parce que c'est dans le too much. Mais du coup, on l'associe à quelque chose qui est trop contracté. Et ce qu'on pourrait apprendre justement des chants mongols ou des inuits, c'est la détente, en fait, qu'il faut avoir pour ce type de son. Donc, il faut être dans un... C'est un peu schizophrénique, hein, il faut être dans un lâcher-prise qu'on va maîtriser. C'est... Donc, je dirais que... Je ne sais pas si c'est une inspiration. Je ne pense pas que ce soit une inspiration. Maintenant, en termes de résonance et de... On peut effectivement, si on travaille le chant mongol, retrouver des choses... du chant saturé et du growl, ça j'en suis persuadée.
Mais merci.
Après savoir s'il y a un lien direct, je ne suis pas sûre.
Mission métal.
Première question, à quand tu dates le début de la musique métal ?
Alors écoute, les avis divergent.
Pascal Gueug, président de la Fédération des musiques métalliques.
Toujours un peu des querelles de connaisseurs qui connaissent. En gros, on dit fin des années 60, début des années 70. Même s'il y a eu quelques prémices avec les Beatles, Helter Skelter et quelques morceaux comme ça. Mais grosso modo, début des années 70, avec l'arrivée de Led Zeppelin et tous ces groupes-là, Black Sabbath, bien sûr. Voilà, c'est plutôt à cette période-là qu'on date le début de l'ère métal, on va dire.
Comment s'y reconnaître dans les différents styles de métal ?
Wow ! Écoute... Alors déjà, le métal, il est multiple parce qu'il y a plein de genres de métal. On en décompte plus d'une cinquantaine. En tout cas, nous, puristes, entre guillemets, on est très, très regardant sur les sous-genres et les genres et les sous-genres. Et oui, il y en a un paquet de genres. Après, je pense que c'est une histoire d'éducation de l'oreille parce que pour beaucoup de gens, un genre va ressembler à un autre. Et nous, on va effectivement être en capacité de dire « bah non, c'est pas le cas », mais bon, parce qu'on écoute ça depuis longtemps. Après, il y a vraiment plein de styles dans le métal, c'est ça qui est chouette, c'est que ça va vraiment du plus agressif au plus calme. Après, il y a toujours ce sujet de « est-ce que c'est métal, est-ce que c'est pas métal ?» À partir du moment où c'est un peu saturé, où il y a cette énergie un peu rock, énervée, et que ça... ça part en solo et que voilà, il y a quelques codes comme ça qui font qu'on sait que c'est du métal. Mais effectivement, des fois, il y a des groupes qui sont un peu à la limite. Et puis après, il y a des groupes effectivement plus violents que d'autres. Il y a, ça va jusqu'au black metal, va jusqu'au death metal, jusqu'au grind. Il y a plein de déclinaisons. Je te dis plus d'une cinquantaine. Il y a eu des cartographies qui ont été faites d'ailleurs sur le genre de métal, donc c'est assez drôle. Il y a beaucoup de sous-genres et beaucoup de variations, donc c'est un genre qui est très complexe. Et au début, moi je conseille toujours aux gens de commencer par voilà, quelques groupes un peu tarte à la crème, hein. Je pense à du AC/DC, à du Metallica, à des groupes comme ça, et puis c'est comme ça qu'on met le pied dedans et puis qu'on découvre après plein de sous-genres. Mais c'est ça qui est chouette aussi dans cette esthétique, c'est qu'il y a plein de déclinaisons différentes. Et quand on creuse un peu, on tombe sur des petites pépites. D'ailleurs, après, on met plus d'étiquettes. Hein. Au bout d'un moment, moi, je ne mets plus d'étiquettes sur les groupes. C'est j'aime bien ou j'aime pas, mais il n'y a pas de... On n'est pas là pour les mettre dans des cases comme à la Fnac ou dans d'autres dans les magasins, quoi.
Et toi, c'est quoi ton style de métal préféré ?
Ah, moi ? Écoute, j'ai plein de genres préférés. Moi, ça revient à ce que je te disais à l'instant, c'est que... vu qu'il y a plein de variations et de styles différents dans le métal, moi j'aime vraiment de tout. Alors quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de métal fusion, donc plutôt du métal qui a un petit côté urbain, rap, qui mélange un peu les genres. Puis après je suis passé dans des trucs beaucoup plus durs, donc plutôt du death, du black, des choses plus obscures que j'aime toujours, hein. D'ailleurs il y a toujours des groupes que j'aime beaucoup. Et puis après, j'ai écouté vraiment de tout. Ça dépend de mes humeurs, en fait, pour être très franc avec toi. Il y a des jours où je vais être plutôt en mode énervé et speed, et je vais avoir envie d'écouter des groupes un peu plus violents. Je suis une petite période hardcore là en ce moment, donc j'écoute pas mal de hardcore. Puis il y a des jours où je vais être plus mélancolique. Alors je vais aller écouter des trucs plus doom, du Paradise Lost, des trucs comme ça. Et puis il y a des jours où je vais être plutôt jovial et je vais aller écouter des groupes plus funky, plus, plus fusion, justement. Voilà, ça va dépendre vraiment de mon humeur. Donc, je pense pas dire que j'ai pas un genre préféré, quoi. J'aime vraiment plein de genres différents. Et c'est ça qui est cool, c'est que dans le métal, t'as plein de genres différents. Donc, tu peux vite trouver chaussures à ton pied.
Mission métal.
Growl, voix grave et gutturale. Scream, cri aigu et saturé. Clean, chant clair. Fry scream, technique de scream plus contrôlée. Riff, motif de guitare répétitif, souvent central dans un morceau. Breakdown, passage plus lent et lourd, souvent fait pour pogoter.
Plutôt pogo ou headbang?
Les deux. Ou bière avant, surtout.
Important.
Ouais, important, ça va avec.
Mission métal.
Le métal que l'on connaît aujourd'hui a bien changé comparé à ses débuts en 70 aux États-Unis. Il s'est métissé avec d'autres genres musicaux et de nouvelles influences, rendant le métal plus commercial et accessible à tout le monde. Cette mondialisation du métal va permettre à des groupes d'autres pays de créer un son unique, mélangeant le métal et les traditions culturelles propres à leur origine. Le premier groupe à avoir tenté de mélanger leurs racines au métal vient tout droit du Brésil. Il est créé en 1984 par les frangins Cavalera, c'est Sepultura. C'est à partir de 1996, à la sortie de Roots, que les choses deviennent sérieuses. L'album va propulser le groupe au rang de superstar. Il sera classé 27e au Billboard américain à tout style de musique confondu, et 4e au UK Album Chart. Le succès de l'album est simple à deviner, le groupe va chercher à incorporer des éléments et instruments traditionnels brésiliens à leur musique. Pour ce qu'on peut retrouver dans l'album, des passages de percussion à peau, dont un morceau interprété par Carlinhos Brown, des enregistrements en Amazonie avec les Raventes, un peuple autochtone du Brésil, du berimbau, un instrument à cordes frappées brésilien, et des influences brésiliennes et africaines à la basse et à la batterie. Le genre va alors se propager dans les quatre coins du monde. Il va influencer de nombreux groupes, dont certains connus comme Korn, qui jouera un morceau à la cornemuse, ou encore System of a Down, avec la mandoline, le oud, le sitar et le chant arménien. Pour d'autres groupes, par contre, cette influence ne s'arrêtera pas à quelques morceaux, mais sera leur identité, voulant montrer au monde la diversité de leur culture par le métal. C'est le cas d'un groupe récent, Arcane Astrophocor. Formé en 2015 à Lomé au Togo, le groupe joue de plusieurs instruments traditionnels comme le agogo, le axaste, le djembé ou encore le tama. Ils chantent également en trois langues, en français, en anglais et en ewe, une des langues du Togo. A savoir, lors de leur concert, le groupe se met de la peinture blanche sur le visage et le corps pour donner une image de guerrier, ce qui ramène à leur nom, qui traduit en français donne « musique de guerrier ». Le métal est présent dans le monde entier, bien qu'il soit encore mal vu dans certains pays, il évolue et s'adapte, laissant la chance à n'importe qui de se l'approprier et d'en faire ce qu'il veut.
Mission métal. Est-ce que vous connaissez la J-pop, la pop japonaise? Ouais? Ben moi je vais vous parler de J-metal, c'est le métal japonais. C'est un métal vraiment à part qui a un univers bien décalé. Tout ça, ça part de l'esthétique visuelle qu'est à la fin des années 80. C'est ça qui caractérise le métal au Japon. C'est pas vraiment un style de musique spécifique, c'est surtout du maquillage, des vêtements extravagants typiquement japonais, que les groupes de glam rock et heavy metal ont créé. Ils voulaient se faire reconnaître par le monde entier pas que pour leur musique, mais surtout pour leur sens du fashion et de leur présence scénique. En fait, le métal au Japon c'est surtout né du style, plus que de la musique. Ça se rapproche un peu du style emo en fait. Des grosses perruques avec beaucoup de volume, un peu de couleur mais surtout beaucoup de dark. Des gros traits d'eyeliner et du rouge à lèvres bien pétant. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on reconnaît le métal au Japon. Mais dans les années 70, quand ça a débarqué, c'était surtout des grosses guitares saturées et du heavy metal, avec une touche d'influence japonaise. Il y avait des éléments de la musique traditionnelle comme le gagaku, c'était joué dans les cours impériales. Il y avait aussi des instruments et des thèmes lyriques traditionnels qui parlaient de leurs croyances. Figurez-vous qu'on trouve encore tout ça aujourd'hui dans ce style de musique. Bowwow et Loudness étaient les groupes les plus connus à cette époque. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bon, ça par exemple, c'est du loudness. Le G-metal, ça a bien changé aujourd'hui. Ce qui fait que ce style est bien reconnu, c'est le kawaii metal. Kawaii metal, ça veut dire mignon en japonais. Ça représente une esthétique mignonne et enfantine en gros. Je suis sûre que vous connaissez le célèbre groupe Baby Metal. Ces idols sont appréciés pour leur esthétique kawaii et leur mélange de pop et metal. Pour l'anecdote, elles se sont rencontrées avec les légendaires Metallica. C'est ça qui est impressionnant aussi, je trouve, aujourd'hui dans le G-metal, c'est la présence écrasante des groupes de musique féminins. Déjà parce qu'on parle quand même d'un pays où les stéréotypes de genre et le sexisme sont hyper présents, mais aussi parce que c'est vraiment une majorité, contrairement aux groupes de métal dans le reste du monde. Bon, malgré tout, on sait que l'idol, c'est un business de divertissement. Il y a une instrumentalisation de la femme, mais c'est quand même impressionnant cette présence féminine. On écoute un extrait d'un titre des Baby Metal. Ce qui fait vivre ces groupes d'ailleurs, c'est les Wota, c'est des fans hardcore. Au Japon, il y a une connexion intense entre les artistes et leurs fans, qui leur jurent fidélité et participent à leur émancipation à l'international, tout en consommant abusément leur merch, comme des CD, des posters, des t-shirts et même via des rencontres organisées. Ça participe aussi à l'industrie du métal. En parlant d'esthétique kawaii, il faut que je vous parle de la présence du métal dans les animés. Bah ouais, désolé, c'était impossible pour moi de parler de G-metal sans parler de manga. La culture de l'anime est très forte au Japon, et va puiser aussi dans la culture du métal. De nombreux animés utilisent le métal pour leur générique ou leur BO. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a évidemment le second opening de Death Note et la BO de Chainsaw Man avec le groupe Maximum The Hormone, reconnu pour leur technique de screaming. Il y a aussi l'opening de Parasite par Fear Loving in Las Vegas qui utilise aussi le screaming. Spéciale dédicace à l'épisode Heavy Metal Queen de Cowboy Bebop où le perso principal fait partie d'un groupe de métal. La BO de l'épisode, c'est des titres de Heavy Metal spécialement conçus pour celui-ci. En gros, au Japon, le métal est vraiment à part. C'est le même genre de musique, mais la culture métal n'est pas la même que dans le reste du monde. Le fait qu'il y ait une vraie diversité des genres, tout en gardant ce côté très culturel de par leur langue, leur apparence, les instruments utilisés avec le taiko par exemple, qui est une technique de jeu de tambour spécifiquement japonais, et ça donne quelque chose de très accessible, même si on ne dirait pas. Mission métal.
Mosh pit, zone où les gens se bousculent. Headbang, secouer la tête en rythme. Wall of death, foule séparée qui se rentre dedans. Circle pit, foule qui court en cercle.
Mission métal.
On a eu la chance de passer un moment à discuter avec Lionel Marquez et Yves Ballandret, fondateurs du groupe Exhorted et icônes du métal à Besançon. Ils nous ont donné de leur temps pour échanger sur le Besac Metal Fest qu'ils ont organisé en mars 2026, sur leur musique ainsi que l'histoire de leur groupe, mais aussi de leur dernier EP, Sad Fiction, dont ils fêtaient la sortie lors du festival.
Bonjour Lionel et Yves. Depuis combien de temps le groupe Exhorted existe et est-ce que vous avez évolué, que ce soit dans le style ou au niveau des membres du groupe?
Ça remonte à 2018. Hein. Ouais. 2018, c'était un concert ici même d'ailleurs, et c'était à peu près à 5 mètres d'ici, ouais. Où on s'est retrouvé aux toilettes. Parce qu'on se connaît depuis 40 ans. Et donc c'est 2018 là où on a décidé de relancer un projet ensemble. Et voilà, donc on a recomposé ensemble. Au départ on était tous les deux. Puis après on a contacté des gens pour faire les morceaux en live. Mais le premier album a été fait par nous
et des musiciens de session. Et là, on a une bonne osmose, on s'entend bien, on délire bien, et donc on fait du bon concert. Avec la nouvelle formation, on a déjà fait deux concerts qui se sont bien passés, une en Suisse et puis une à Dijon, ouais, à l'Acropole, à la vapeur, je veux dire. Et donc là, c'est le troisième concert qu'on fait avec la nouvelle formation. Donc je pense que les gens de Besançon vont voir l'évolution ce soir. Ouais, cool. Okay. Et ça va chier.
Du coup, aussi, on voulait vous demander, c'était quoi le message à travers votre musique et que vous avez créé ?
Musique et texte ?
Ouais, lyrique.
Alors, il y a plusieurs choses. Nous, ce qu'on recherche, nous, déjà, dans la composition, déjà dans la musique, c'est quelque chose qui oscille entre de la puissance. Nous, okay. On aime ça. Nous, c'est grosse guitare, du kick de batterie, une grosse basse et puis un chant saturé. Voilà, nous, okay. C'est vraiment c'est notre kiff. C'est ça qu'on aime. Ouais. Après, pour les paroles, ben, c'est des inspirations de la vie. Des choses qui nous font un petit peu... des choses qui nous ennuient, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous touchent. On a fait, sur le premier, on a fait un morceau pour nos enfants. Voilà, donc c'est...
C'est la religion.
La religion qui nous embête un peu. Tout
mais
ça.
Toujours dans le positif, pas dans le négatif.
Quoi. Non, non.
Toujours dire, il y a quand même une porte de sortie, ouais. Il faut quand même rester positif.
C'est ça.
On n'est pas dans la vie, c'est de la merde.
Vous voulez poser une question sur vos influences, si vous avez eu des influences pour le style musical, évidemment.
Alors, bien sûr.
Oui. On est déjà nous des gros fans de métal. On écoute beaucoup de métal depuis de nombreuses années. On va pas refaire ce qui nous a fait aimer cette musique et ce qui nous a fait évoluer dedans.
Mais de petit, tu vois, depuis 12-13 ans, on écoute du métal.
Ouais, ouais.
Donc
moi c'est AC/DC, Highway to Hell, 1979. Mon cousin m'amène l'album, le truc, et me dit écoute ça, qu'est-ce que c'est ? Et tout, et puis là ça a fait waouh.
Après, t'as un panel comme vous allez écouter plein de groupes, si vous écoutez toujours de la musique dans votre vie. Et après, ça te fait un melting pot dans ta tête. Et après, quand tu composes, bah, t'es obligé d'être influencé. Le mec qui me dit « je suis influencé par aucune musique », c'est qu'il vit dans une grotte. Il n'écoute pas de musique depuis tout petit.
C'est ça.
Donc, t'écoutes tout, tu prends, et dans ta tête, tout se mélange. Après, si tu composes des trucs, tu vas être obligé d'être influencé par quelque chose que t'as écouté. C'est obligé. Après, le but, c'est de refaire de la musique. Par rapport à toi. Essayer de trouver ton créneau, ton style, ou je sais pas quoi. Et nous, c'est ce qu'on a eu, les retours positifs de ça. Dès qu'on a sorti le premier album, ils disaient, vous avez déjà votre style, on sent votre empreinte. Parce que c'est un melting pot de tout. Et puis, après, nous, c'est ce qui nous semblait bien, on essaie de le garder. Après, si les gens, ils adhèrent, tant mieux. Enfin, s'ils aiment pas, ça, c'est le choix de la musique, quoi.
C'est les goûts de chacun.
Exactement.
Mais, du coup, on voulait aussi vous demander... Ben, ça c'était plutôt par rapport à ce qu'on parlait avant, mais qu'est-ce que vous préférez entre la création de la musique live ou la création de la musique en studio? Enfin, création.
Oui, oui, jouer live ou créer pour enregistrer.
Ouais.
Rien à voir. Aucun même. Pas du tout le même délire. Non. Le live c'est l'aboutissement. T'as fait le travail en amont, enfin t'as tout fait, tu sais que c'est. Après les gens ils aiment ou ils aiment pas sur scène, mais au moins tu l'as déjà tout préparé avant, c'est fini. Si tu veux. Sur scène c'est que toi. C'est scéniquement, soit t'envoies le pâté ou soit tu fais et puis les gens ils s'en foutent, ils trouvent ça nul quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est vrai
que
c'est cool. Et puis c'est tu vois les yeux des gens, c'est extraordinaire.
Quand tu montes sur scène, tu vois les gens qui sourient, qui te regardent. C'est bien quoi.
Et c'est top. C'est top. Ça, franchement, ça recharge comment dire. Un mental, ça...
Ouais, c'est comme si tu rechargeais les piles.
C'est ça.
Ça te remet un coup de boost, tu fais putain, j'ai pas fait ça pour rien, quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce que tu peux... pour l'instant, ça va, parce qu'on a toujours des... Pour l'instant, on a des bonnes réactions à chaque fois qu'on fait du live, quoi. Donc, ça va continuer, mais je veux dire, tu peux jouer, puis personne n'aime ta musique. Après, t'as au moins fait... Nous, c'est comme ça qu'on a fait le premier album, on fait ce qu'on a envie, voilà. Ça plaît pas, on s'en fout. À la limite, on s'en fout, on l'aura fait. Si ça plaît, tant mieux, ça a plu, donc on était cool. Mais c'est depuis aux gens, on aurait dit, on a tenté, moi. Tu vois, c'est comme le festival qu'on organise, là. C'est la 4e édition. La première fois qu'on l'a organisé, tout le monde dit, il n'y a rien. On a dit, oui, on va en organiser un, quoi. Il faut se bouger, quoi. Ouais, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, bon, on va le faire.
Rien n'est simple.
Donc on l'a fait. Mais si on écoute plein de gens, on ne fait pas. Puis on dit, putain, c'est chiant. Ben, non, à un moment donné... Si tu ne te sors pas les dos, comme on dit, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Donc, que ce soit en musique ou dans la vie, c'est comme ça, quoi. À un moment donné, si tout le monde te dit « Oh non, tu n'y arriveras pas », bah, tu dis « Bah si, je vais y arriver, bah, c'est
si,
tout. » Voilà.
Si,
tu dis « Bah ouais, je peux y arriver. Okay. » Ça soit dans n'importe quoi, métal, musique, même
le sport,
tracteur, enfin paysan, n'importe quoi. Tout dans la vie. S'il y en a qui te disent « Non, tu n'y arriveras pas », tu dis « Bah si, je vais te prouver, je peux y arriver, quoi. » T'en chieras plus, tu mettras peut-être plus de temps, mais tu y arriveras à la fin. Si c'est ton objectif, tu y arrives, toujours.
En écoutant votre musique sur scène, à quoi on peut s'attendre? Quelle expérience vous pouvez proposer, en tout cas à des personnes qui ne connaissent pas trop le métal ou votre groupe en particulier?
Nous, on a des remarques qui tombent pas mal. C'est parce que, c'est que beaucoup de gens qui viennent nous voir, des fois, par surprise ou par curiosité, les gens ils viennent comme ça et tout, ils disent bah, « Tu vois, j'écouterai pas ça chez moi. » Par contre, j'ai passé un super moment.
Oui, vous organisez du coup le Bezac Metal Fest. Quel est le but de cet événement? Et est-ce que vous variez les genres de métal ou est-ce que vous êtes plus axé sur un en particulier? Et comment surtout vous faites, vous êtes organisé pour faire la programmation des...
Alors, le Bezac Metal Fest, c'est rien que pour faire du métal sur Besançon, à la Rodia.
Voilà.
C'est rien que pour faire plaisir aux gens. D'accord. C'est même pas... Il n'y a pas d'histoire d'ego, je ne sais pas quoi, pour... Ouais. C'est rien que pour dire, on va faire venir des groupes de métal, parce que la Rodia n'organise pas. Et tout le monde disait, bah, il n'y en a pas, personne ne vient à Bezac. On a dit, bah, on va faire venir des gens, nous. On va le faire. Donc, c'est rien que pour les gens qu'on fait ça. Nous, on aime bien organiser, on aime bien, si on prend notre pied à le faire. Mais ça demande beaucoup de temps et puis beaucoup de soucis. Donc, faut pas croire.
Ouais.
Donc, on a commencé doucement et on monte, la 4e édition. Et puis, c'est pour que les gens viennent voir un concert de métal, c'est tout.
Mission Métal.
Premier souvenir avec le métal, je sais même plus, c'était un groupe qui passait dans un festival à la Paille, je crois. C'était, il devait y avoir Pogo. Donc bon, un groupe bien bisontin de métal. Trap métal, c'était assez stylé.
Le Hellfest, première l'année dernière, c'était génial.
On était en 16e ou 5e, on devait avoir 12 ou 13 ans. Et à l'époque, on écoutait plutôt IAM. D'ailleurs, on était déjà allé voir le concert d'IAM avec son père. Et j'ai un copain qui m'a prêté le CD de Chaos AD, de Sepultura. On était dans ma chambre, chez mes parents. J'ai mis le CD et quand ça a commencé, on s'est regardé, on était estomaqués tous les deux. Et c'était le début de notre histoire d'amour avec le métal.
Mission Métal, le podcast de la Mission Locale avec la Rodia et Sparse Magazine.